Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire tout d'abord que c'est une grande joie pour moi de pouvoir prêcher la parole de Dieu avec vous ce soir, en cette fin de journée ensoleillée. Après avoir célébré l'épisode de la Pentecôte, donc il y a 2 semaines, épisode biblique au cours duquel les premiers chrétiens ont vécu une communion pleine et entière de l'Esprit, nous voici à nouveau dans le livre des Actes, au chapitre 12. À première vue, lorsqu'on lit ce texte, on a comme une impression de déjà-vu, l'impression d'un retour en arrière. Je m'explique. Un retour en arrière car tout d'abord, il est question de persécution. Et c'est une situation bien différente de la paix et de la joie qui régnait lors de la Pentecôte. Mais surtout, un retour en arrière car il est fait mention d'un personnage au pouvoir dès le premier verset de ce texte, il est question de Hérode. Et si on se souvient bien, c'était Hérode qui était déjà au pouvoir lors de la naissance et de la conception du Christ. Et Hérode commettait déjà des actes de persécution qui avait poussé les parents biologiques de Jésus, Marie et Joseph, à fuir en Égypte plusieurs décennies en arrière. Et si on veut aller encore un peu plus loin, dans le passé des textes bibliques, cette persécution commise par un roi, par un souverain, nous rappelle l'attitude du pharaon, qui plusieurs siècles en arrière avait maltraité le peuple hébreu, comme nous le rapporte le livre de l'Exode, dont nous avons lu un extrait tout à l'heure. Alors, la question qui se pose est la suivante. La vie des premiers chrétiens, la vie des chrétiens de manière générale, ne serait-elle qu'un retour en arrière? Un espèce de carrefour giratoire dans lequel il n'y aurait aucune issue, un disque qui tournerait en boucle sans que l'on puisse faire quoi que ce soit. En étudiant attentivement le texte, on se rend compte que l'histoire n'est pas la même. L'histoire ne tourne pas en boucle. Tout d'abord parce que le Hérode, dont il est question dans ce texte, n'est pas le Hérode qu'il y avait à l'époque de Jésus, il y a quelques décennies en arrière. Dans ce texte, il s'agit du petit-fils, Hérode Julius Agrippa Ier. Et l'histoire ne tourne pas en boucle car on se rend compte aussi que les générations ont changé. Par le passé, il y a eu Moïse, dont le chapitre qu'on a lu tout à l'heure nous rappelait la vocation. Il y a eu Jésus, qui a été maltraité et opprimé par le peuple juif. Et maintenant, c'est au tour de Pierre. Mais chacun de ces personnages a une histoire de vie et un contexte bien différent. L'histoire ne tourne pas en boucle, mais je pense qu'il s'agit en fait d'un nouveau commencement. Dans l'Exode, dans les évangiles ou dans le livre des Actes, le grand processus par lequel nous devons tous passer, c'est le processus de libération. Être délivré de la main du Pharaon, nous dit le livre de l'Exode, être délivré du péché, nous dit le Christ, ou encore être délivré de la main d'Hérode, nous dit cet extrait du livre des Actes. En quelque sorte, ce que nous enseigne ce passage, c'est que chaque nouvelle génération doit vivre son propre exode. Chaque nouvelle génération doit vivre sa propre libération. C'est à chaque fois de libération dont il est question, et c'est le grand thème de la foi chrétienne, c'est la grande quête des rédacteurs bibliques. Dans mon deuxième point, je voudrais revenir sur la figure de Pierre. Pierre, l'apôtre du Christ, est en prison, nous l'avons lu, sous bonne garde, enfermé à double tour, dans le couloir de la mort, en quelque sorte, parce que ce souverain, Hérode Agrippa, était un souverain connu pour ses faits de violence, réputé pour commettre des bains de sang. Et le texte nous dit que Pierre dort. C'est une attitude étrange pour quelqu'un qui est dans le couloir de la mort. Est-ce que Pierre était vraiment en paix? Est-ce que Pierre était vraiment tranquille? Le réformateur Martin Luther nous parlerait du sommeil tranquille de celui qui est justifié. Mais ce n'est pas la lecture que je vais faire ce soir. Je pense au contraire que Pierre était résigné. Pierre était résigné car son ami, son compagnon d'aventure, Jacques, a été tué par Hérode Agrippa. Pierre s'est retrouvé seul, abandonné, laissé pour compte de la communauté. Et j'irai même plus loin en nous disant que Pierre dort. Je pense que le rédacteur a voulu nous faire comprendre que Pierre s'est habitué à une forme de maltraitance. Pierre s'est habitué à une forme de persécution. Certainement, il s'est dit que, après tout, mes ancêtres en Égypte ont souffert, ont été mis en esclavage. Mon maître, Jésus le Christ, a été persécuté. Mon ami Jacques a été tué. Donc je dois souffrir, comme une espèce de fatalité. Et ce type de réaction peut nous arriver à nous tous, de notre quotidien, et même dès le plus jeune âge. On peut par exemple s'habituer à être maltraité à l'école par un camarade de classe. On peut être maltraité par un collègue de travail. On peut être maltraité par un conjoint. On peut aussi être maltraité par une institution. Et à mon sens, ce genre d'attitude, ce genre de comportement est dangereux. Pierre a renoncé, sa conscience est assoupie, il est résigné, ce n'est plus qu'une ombre, l'ombre d'une vie. Alors, la dimension religieuse, la dimension de l'espoir va naître. La communauté va reprendre ses droits, l'Église prie, et c'est un messager de Dieu qui va intervenir de manière merveilleuse pour libérer Pierre. Et ce messager de Dieu a eu des mots très particuliers. Il lui a dit « Lève-toi ». Et ce verbe en grec, c'est le verbe qui est utilisé pour la résurrection. En quelque sorte, Pierre vit une forme de résurrection. Il est libéré de l'état de léthargie dans lequel il était plongé. Il va retrouver une nouvelle consistance à sa vie et va reprendre pied dans l'histoire qui était la sienne. Il existe d'autres récits semblables dans la Bible qui racontent l'intervention merveilleuse d'un ange, d'un messager de Dieu, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus ce soir. Ce que je voudrais souligner surtout, et je pense que c'est ce que le rédacteur du texte veut nous faire comprendre, c'est l'importance de la prière. La prière communautaire, elle est importante, elle est fondamentale, car elle amène une forme de résurrection. La prière a une dimension de libération. Et ce qu'il y a de plus merveilleux, à mon sens, dans ce récit, c'est que, malgré le fait que Hérode Agrippa était connu pour ses faits de violence, la libération de Pierre se fait sans aucun heurt, sans aucune violence, sans aucun bain de sang. L'autorité de Dieu ne consiste pas à répondre à la violence par la violence, mais par l'amour. Et c'est cela, mes amis, le message de l'Évangile qui libère, un message qui apporte la libération. Dans mon troisième et dernier point, je voudrais vous parler de la foi. Nous l'avons lu, Pierre était en prison. Et pourquoi Pierre était en prison? Pierre était en prison car il s'était opposé à ce que le peuple juif attendait de lui, c'est-à-dire à une forme de religion qui était préétablie, à une forme de religion qui venait s'opposer à l'évangile de Jésus-Christ. Et ce que nous montre ce texte, c'est que rien n'arrête la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce texte est un manifeste en faveur d'une foi qui ne se résigne pas, une foi que l'on n'arrive pas à mettre en prison, manifeste en faveur d'une foi insoumise. Je vais vous citer ici un exemple un peu plus proche de nous, celui d'une grande figure protestante dont je suis sûr que certains ont entendu parler. C'est l'exemple du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer était un pasteur allemand qui fut l'un des rares pasteurs de son temps à s'être opposé de manière publique contre Hitler et contre le nazisme. Et Dietrich Bonhoeffer a été mis en prison pour ça. Car il est opposé à Hitler et surtout au fait que Hitler avait créé une église protestante du Reich. Et malgré le fait qu'il a été mis en prison, Dietrich Bonhoeffer n'a pas renoncé à sa foi, il n'a pas renoncé à ses convictions, malgré le fait qu'il y avait une issue d'une mort certaine. Le protestantisme est la foi insoumise, comme le dit le théologien Raphaël Picon, ancien professeur de théologie à la faculté de Paris. Frères et sœurs, la foi chrétienne est insoumise, car elle refuse de se compromettre avec des comportements de violence. La foi chrétienne est insoumise car elle ne se complaît pas dans l'oppression des individus au nom de quoi que ce soit. La foi chrétienne est insoumise car elle nous révèle que l'autorité de Dieu n'est pas une autorité limitée. La foi chrétienne est insoumise car elle ne courbe pas les chines face aux circonstances difficiles de la vie. Alors ce soir, je voudrais vous dire qu'un homme, qu'une femme sortent de sa torpeur. Ne soyons pas endormis, ne soyons pas résignés, mais marchons dans la confiance, marchons dans la foi, soyons en marche vers la liberté. Car la parole nous dit que si le Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. En effet, la personne est réellement libre lorsqu'elle vit son propre exode, sa propre libération, en dehors de la prison de ses résignations. Amen.